Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Le langage est-il une arme? Repenser la langue pour penser le monde qui nous entoure. La philosophe Barbara Cassin nous rejoindra à partir de 12h55 à l'occasion de l'apparition d'un échange sur le mélange des genres et de la philosophie chez Fayard. Homme-femme philosophie, c'est avec son complice Alain Badiou. Mais d'abord, l'heure de vérité pour le chef-op Éric Gauthier. Il a travaillé pour ou avec les Français Alain René, Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, pour le Brésilien Walter Salles, avec l'Américain Sean Penn, le Taïwanais Ang Lee ou encore le Chinois Jia Zhangke. Il sera mercredi au générique de La Vérité, le nouveau film français avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, du Japonais Hirokazu Koreeda, Palme d'Or l'an dernier à Cannes pour une affaire de famille. Éric Gauthier est notre invité jusqu'à 12h30 à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et bonjour Éric Gauthier.
Bonjour.
Directeur de la photographie sur le nouveau Koreeda, film d'ouverture de la Mostra de Venise cette année. Les retrouvailles dans la maison familiale à Paris entre Juliette Binoche, Lumière, scénariste à New York, et sa mère Fabienne, star, icône de cinéma en France. Des retrouvailles entre reproches et tentatives de réconciliation. En salle, mercredi, La Vérité, bande-annonce.
Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN?
Ah, en France, je vois vraiment personne.
Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors.
Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille.
Elle a épousé cet acteur, là?
Bon, acteur, c'est un bien grand mot.
Welcome.
Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Comme ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires.
100 000 copies.
50 000, pas 100 000.
Tu peux être vaniteuse.
C'est quoi ça, maman? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois.
Quelle emmerdeuse.
Comment ça se passe sur le tournage?
Ah bah, elle apprend pas son texte. Non, mais c'est de ta faute, hein. Tu lui as tout passé pendant 40 ans. Comment ça, tu t'en vas? Oh, c'est un peu soudain, non?
Pourquoi tu fais ça? Sans toi, elle va pas s'en sortir.
Premier film français du réalisateur japonais tourné à Paris avec des acteurs et une équipe d'ici dans une langue que Koreeda ne parle pas. Comment avez-vous communiqué, échangé, travaillé tout simplement, Éric Gauthier?
Oui, bah c'était curieux. C'est la première fois que cette expérience, que j'ai pratiqué cette expérience-là, c'est que Koreeda il parle ni anglais ni français. Donc il y avait forcément une traductrice, mais qui était... Enfin, j'aime pas beaucoup qu'il y ait un intermédiaire sur un tournage, sur qui à un moment j'ai envie d'être directement confronté à un réalisateur. Et en fait, on se faisait beaucoup de langage des signes. Et en fait, ça marchait très bien. Alors évidemment, quand il s'agissait d'expliquer des choses de psychologie, tout ça, des personnages, il y avait besoin de quelqu'un pour traduire. Mais sinon, on arrivait très bien à se faire des signes, à se montrer, et puis montrer qu'il voulait que ce soit plus serré ou plus large. Et moi, je lui avais demandé, parce que c'est lui qui m'avait proposé d'ailleurs, mais je lui ai demandé qu'il me fasse des petits dessins. Moi, j'ai horreur de l'idée de storyboard et qu'on dessine. Et même autrefois, il y a longtemps, j'avais tourné avec Enki Bilal et je lui avais demandé pour son film qu'il fasse une espèce de petit brouillon, mais surtout pas des beaux dessins. C'est-à-dire qu'on reste libre sur le plateau à inventer. Mais ça donne un ordre d'idée et ça donne une idée du rythme de la scène qu'on va tourner. Donc là, je lui ai demandé de faire ça. Et donc il m'a fait des petits dessins, comme des petits dessins d'enfant, avec de l'aquarelle où vous avez des petites taches rouges sur les joues et tout, c'est très joli, très mignon. Et c'est surtout que je me rendais compte qu'il le mettait en regard du texte. Et donc il y a des moments, je comprenais par exemple que c'est Catherine Deneuve en gros plan qui compte et qui écoute ce qui se raconte. Donc voilà, c'était une façon aussi de se faire un langage, comme sur tous les films, faut inventer un nouveau langage. Là, avec lui, c'était assez particulier parce que il n'y avait pas moyen d'avoir quelques mots ni d'anglais ni de français. Moi-même, ne parlant pas japonais, donc et c'était pareil avec les actrices aussi, enfin les acteurs évidemment, mais les actrices surtout parce que c'est quand même avant tout une histoire de femmes sur trois générations. Avec il y a une petite fille aussi, comme dans tous ces films, il y a toujours trois générations. Et c'était aussi une drôle de façon d'arriver à se comprendre. par la musique, de la langue aussi. Et je sais pas, c'est, je pense que vraiment dans le cinéma, c'est un peu, moi je viens de la musique, je viens du jazz, et c'est un peu la même chose. On peut être on peut mélanger des je parle d'improviser, hein, je parle pas de lire une partition très technique et très profonde et qu'il faut travailler et savoir d'où ça vient, etc. Je parle donc du jazz. Mais vous pouvez mélanger un Suédois, un Africain, je sais pas, un Américain, un Japonais, un Français, et ils vont très vite se comprendre. Et en fait, dans le cinéma, c'est la même chose, c'est un rapport au rythme. Il y a une justesse qui est liée à la musique et de la voix, et il entendait très bien, il se trompait jamais sur les bonnes prises. Et même ses actrices étaient tout à fait d'accord avec lui, il entendait très bien. Il connaît bien le cinéma français, donc c'est familier à son oreille. Mais malgré tout, c'est
on arrive. Étonnant que la compréhension passe pour vous par la musique, hein,
absolument.
Les paroles, le jeu des acteurs, plus que par l'image finalement.
Absolument.
Dans la manière de vous être retrouvé, vous aimez le jazz, vous parlez d'improvisation et vous vous comparez souvent à un orchestrateur, quelqu'un qui orchestre. C'est ça votre métier, les désirs, les
non,
talents
un
des
arrangeur,
réalisateurs.
Voilà. Ouais. Comme il y en a eu des magnifiques pour Gainsbourg et tout ça, c'est tout à coup. C'est faire sonner des timbres qui vont porter la partition principale, quoi. Voilà. Donc c'est un peu mon travail, oui, je pense. D'ailleurs, il y a des termes en commun, enfin une couleur, ou on dit ça aussi en musique. Non, je pense qu'il y a dans mon métier, c'est d'accompagner. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment au service. Il faut commencer par être très humble et très modeste, être un peu une éponge, de prendre toutes les informations qui viennent. Et puis après, petit à petit, s'impliquer de plus en plus et puis apporter ce que je peux apporter de toute mon expérience, de toute ma vie, etc. Donc c'est complémentaire, quoi.
C'est votre première collaboration avec Corrida, hein?
Oui.
C'est lui a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi?
Non, c'est lui qui m'a appelé. Parce que, en fait, dans cette, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est aussi dans les films très souvent chez Corrida. C'est qu'il y a quelque chose qui est essentiel et pour lui, c'était le personnage principal, c'est une maison. La maison de famille. Et bon, il avait beaucoup aimé Un conte de Noël de Desplechin et L'heure d'été de d'Assayas, où dans les deux cas, il y a aussi une maison, la maison familiale, qui est l'enjeu et l'essentiel, qui est un vrai personnage, voilà. Et donc, comme ces deux films, je les avais traités de façon très différente, là, il m'avait proposé, et pour moi, c'était un peu compliqué aussi de me dire... comment je vais visuellement traiter cette maison, mais elle a rien à voir avec les deux autres, et donc ça n'a, voilà, j'ai aussi trouvé une autre forme visuelle, mais c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a guidé.
Alors comment vous avez choisi, ouais, justement, de la traiter visuellement? Parce que cette maison de famille, elle apparaît à la fois comme un refuge, comme un lieu où le temps s'est arrêté. Elle est souvent accompagnée de couleurs assez chaudes. Et pourtant, c'est aussi là où on se fâche, où on se dispute, où les divisions, les non-dits, les mensonges se révèlent dans cette maison, avant la réconciliation. Il y a un autre lieu important dans ce film, La vérité de Corrida, c'est le plateau de cinéma, puisque Catherine Deneuve, Fabienne dans le film, joue, et qu'il y a un film dans le film. Et là, c'est un lieu plus froid. Pourquoi? Comment vous avez joué sur l'opposition de ces deux lieux-là?
Oh, vous savez, c'est une alchimie qui est toujours très difficile à expliquer parce que ce sont que des petits détails qui, jour après jour, font qu'on fait des petits changements qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient décisif. Cette maison, pour moi, ce qui était essentiel, c'est qu'on comprenne que cette immense actrice, d'abord, c'est un immense rôle pour Catherine Deneuve qui est extraordinaire dans le film, enfin, je trouve. Moi, j'ai tourné, c'était mon cinquième film avec elle. Et... ce qui était très important, en fait, souvent les choses arrivent par la frange, par le côté. C'est que ce qui était très important, c'est que quand on a tourné donc il y a un an, Catherine elle avait 75 ans et Juliette elle était dans sa cinquantaine, début de la cinquantaine. Et c'était très important que le rapport mère et fille soit relié à cet âge-là. Parce que c'est ça la violence dans ce film, c'est parce qu'elles sont pas toutes jeunes, c'est pas une mère avec une gamine, il s'agissait pas de leur faire paraître un âge plus jeune. Je sais le faire avec Nicole Kidman, quand elle a fait Grâce de Monaco, elle a l'air d'avoir 20 ans de moins parce qu'elle était trop vieille pour le rôle, je sais faire ça aussi, mais là c'était très important de leur donner leur âge. Et donc tout à coup c'est une façon aussi d'arriver, ce que je réponds quand même à votre question, à l'idée de la maison, c'est que cette maison-là, il faut qu'on comprenne il fallait qu'on comprenne que c'est une maison d'une actrice qui a été immense, qui est sur la fin, qui a été profondément, qui s'est très mal occupé de sa fille, qui a été très profondément égoïste, qui a tout sacrifié pour sa carrière, et qui en fait n'a vécu que pour ça. Donc il a fallu qu'on sente qu'il y a eu cette rien à voir justement avec les films dont je vous citais avant, où c'était vraiment les lieux de la famille, où la famille a vraiment vécu ensemble. Là, il a fallu qu'on sente vraiment que cette maison, finalement, elle était très impersonnelle et elle représentait une espèce de splendeur déchue au moment où se raconte l'histoire. Donc tout ça, c'est des pistes, et petit à petit, en essayant de bien travailler, parce que moi je vous parlais de l'âge de ces actrices, c'est quand même toujours quelque chose qui est assez tabou dans le cinéma. C'est quelque chose, pour un chef opérateur, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut arranger et tout. Et moi, je voulais vraiment qu'on sente leur âge, mais que ce soit pas cruel et que ce soit qu'il y ait une certaine douceur. Donc ça, forcément, il y a une interférence sur la maison elle-même, etc. Donc ce sont plein de petites choses qui font qu'au bout d'un moment, cette maison, elle prend son âme, elle existe. Comme une maison qui a vécu depuis 40 ans ou 50 ans avec cette grande actrice célèbre. Voilà. Ça se fait petit à petit comme ça. C'est pas quelque chose qui se théorise et c'est pas quelque chose que, et c'est quelque chose que je fais un peu tout seul dans mon coin, parce que malgré tout, la lumière, tout ça, c'est quelque chose qui reste assez solitaire, comme le rôle de Catherine Deneuve. Elle a embrassé son personnage et elle en a fait ce qu'elle est. Mais comment dire, si à un moment ce sont des décisions qu'on fait tout seul, quoi.
Dans ses mémoires, dans ce film, La Vérité, elle réinvente sa vie. Et face aux reproches de sa fille, elle s'en défend. « Je suis actrice, je ne vais pas raconter la vérité toute nue », dit Fabienne Catherine Deneuve. Surtout qu'elle n'a rien de passionnant, cette vérité. Actrice avant d'être mère, comédienne avant d'être femme, à la fois méchante et attachante. Dans le journal du dimanche, Juliette Binoche raconte le temps qu'il lui a fallu pour apprivoiser la femme ou la comédienne Catherine Deneuve, le vouvoiement de protection qu'elle a utilisé jusqu'au bout du tournage. Votre rapport avec les acteurs et les actrices surtout, on va écouter d'abord celui qui vous a mis le pied à l'étrier, c'est Bruno Nuiten, directeur photo et réalisateur. La Cinémathèque lui a consacré une rétrospective, c'était en avril dernier. Pour lui, le chef-op doit être un phare pour les acteurs.
J'ai toujours été amoureux des acteurs que j'ai pu filmer, même si je ne l'aurais jamais dit, et même s'il n'était pas question d'être amoureux de tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que comme j'étais principalement cadreur aussi, enfin je faisais le cadre et la lumière, j'ai eu des rapports comme ça dans le non-dit. Hein. On est si près de l'acteur quand on le cadre, on l'accompagne tellement précisément, c'est-à-dire qu'à son moindre frémissement, il faut partir avec lui, que j'ai appris à les voir travailler aussi. J'ai appris à les voir avant les prises, quand on a déjà l'œil dans l'œil tombe et que l'acteur n'a pas commencé à jouer, et surtout après.
Alors, quelle relation vous entretenez, vous avez avec vos acteurs ou vos actrices, Éric Gauthier? Vous racontez parfois le temps passe, ça peut être cruel pour une actrice, surtout plus que pour un acteur. Je suis aussi là, nous disiez-vous, pour les protéger de tout cela. Mais est-ce qu'il y a des fois où vous les trouvez un peu capricieux et que vous en avez marre d'être aux petits soins avec elles ou avec eux?
Non, c'est ma raison d'être. Et là, tout ce que dit Bruno Nuiten, comme c'est avec lui que j'ai commencé en 1982, où j'étais son stagiaire, et après on s'est retrouvé sur des films qu'il a réalisés. Je suis absolument d'accord avec lui. Moi aussi, je fais la lumière et le cadre. Et si je fais le cadre, c'est parce que je vais être très près des acteurs aussi. Et il y a cette complicité. Non, c'est pas spécialement cruel avec le temps. Ça peut être plus cruel sur les hommes. Non, je suis pas d'accord du tout avec cette idée que c'est plus cruel avec les femmes. Après, ce qui est cruel, c'est qu'il y a moins de rôles, peut-être pour des femmes, on va dire d'âge mûr, que pour des hommes. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais, encore vous voyez, voilà, Catherine et puis Juliette, elles sont magnifiques dans le film. Et c'est plutôt ça le vrai problème, mais c'est pas une question de... Non, ce que je dis cruel, quand je parlais de cruauté, c'est quand, en effet, il faut prendre des précautions. Quand il y a une gamine qui a 16 ans ou une toute jeune actrice qui arrive, c'est toujours facile. Mais c'est sûr qu'il y a un certain âge où il faut prendre un peu des précautions, parce que en lumière et tout, ça peut être assez cruel. Mais enfin bon, tout le monde le sait, quand vous faites des photos vous-même, vous savez très bien que ça peut être très moche le résultat. Donc il y a du travail, voilà.
Mais là, si on prend le cas par exemple de Juliette Binoche, si en sortant de la salle, vous entendez quelqu'un dire que Binoche est lumineuse dans ce film, qu'elle est solaire, est-ce que c'est un compliment?
Oui.
Est-ce que vous vous dites c'est gagné? Mais qu'est-ce qui se passe si le réalisateur avait pensé ce rôle autrement, s'il l'avait imaginé plus grise? Vous l'auriez ternie sans scrupule?
Bien sûr. Binoche. Si, c'est l'histoire, mais parce qu'elle aurait voulu aussi. Elle serait d'accord. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Mais là, il s'agissait pas de ça du tout. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus cruel dans le film que c'est un personnage qui finalement est passé à côté de sa vie à cause de sa mère. Et donc, le règlement de compte à la cinquantaine, il est assez violent. Et c'est pour ça que, comme il est très fort, Koreeda, il y a toujours la petite fille. C'est la fille donc de Juliette Binoche dans l'histoire, donc la troisième génération. Qui va prendre le relais. Et c'est peut-être elle qui va s'en sortir très bien. Elle a l'air très maligne d'ailleurs dans l'histoire. Donc, oui, non, mais je pense c'était bien de montrer ces femmes. C'est vrai que vous me parliez du journal du dimanche, là, de Juliette, ce qu'elle disait et tout. C'est la première fois qu'elle tournait ensemble. Mm-hmm. C'est ça aussi qui est quand même incroyable. C'est que Koreeda, il vient en France, il fait tourner ces deux actrices gigantesques, immenses, pour la première fois. Comment est-ce possible que personne n'y ait pensé avant? Enfin bon, ça c'est heureusement, voilà, c'est son talent. Et c'est vrai qu'elles avaient beaucoup de craintes, elles étaient très impressionnées l'une par l'autre. Ça, au tout début, les premières répétitions, les premières lectures, c'était un peu de jeu de chasse sauvage, un peu. Mais très très vite, elles sont devenues très complices. Elles ont été très complices pendant le tournage, vraiment. Et il y a eu une vraie amitié, mais qui s'est développée tout de suite très vite. Et puis parce que elles sont des femmes magnifiques, et intelligentes, et elles sont jamais mises en compétition, et au contraire, elles essayaient toujours de servir l'autre et pour la rendre encore mieux à l'image et tout. Non, ça c'était très beau. Et moi, je suis comme un poisson dans l'eau. En plus, ce sont des femmes qui me font, avec qui j'ai déjà tourné, je vous disais Catherine, mais Juliette aussi, j'avais déjà donc fait l'heure d'été avec elles, donc qui me font une confiance absolue et savent très bien que j'ai un regard bienveillant et donc il y a une belle complicité. Et puis Koreeda lui-même, quoi, c'est quand même quelqu'un qui est très doux, qui est très calme, qui est très très apaisant. Donc c'est une belle présence. Voilà, il y a des gens nerveux, il y a des gens qui peuvent faire des très grands films, quoi, Chéreau, tout ça. Mais par exemple, oui, Koreeda, oui, c'est quelqu'un qui est très, dès qu'il est sur le plateau, voilà, c'est apaisant, même si c'est compliqué en communication, même si ça crée beaucoup de problèmes tout autour, parce qu'il y a plein de malentendus ou de non-dits, etc.
Je suis la seule à vieillir, dit le personnage de Catherine Deneuve, Fabienne, oui, dans le film, à un moment. Et c'est vrai qu'elle a un rôle très particulier. Elle est égoïste, cette actrice qui a du mal en même temps et qui est en souffrance par rapport à ce temps qui passe. On sent qu'elle a dû beaucoup se battre aussi pour obtenir tout au long de sa carrière
les
rôles.
C'est très clair dans le film, elle a même trahi et au combien. Donc.
Le personnage de Sarah, le fantôme qui revient. Mais au fond, le film pose aussi la question du sacrifice. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour rester comme Deneuve, Fabienne, dans la lumière? Et vous? J'avais envie de vous poser la question à vous, Éric Gauthier, qu'on imagine toujours dans l'ombre. Vous avez dû faire aussi des sacrifices dans
beaucoup.
Votre vie, votre parcours, pour rester maître de la lumière?
C'est pas être maître de la lumière. En fait, c'est pas ça qui compte le plus, en réalité. C'est ce qui a compté pour moi dans ma vie. Oui, la vie, de toute façon, on apprend très vite qu'il faut faire des sacrifices. Par exemple, j'étais très bien parti dans la musique, le jazz, etc. Et il y a un moment, quand on tourne, on peut pas faire 4 heures de piano par jour. Voilà, donc il y a un moment, il faut laisser tomber. On sait que voilà, il y a un niveau qu'on n'atteindra jamais parce qu'on fait autre chose. Après, il y a les enfants, il y a du sacrifice quand on voyage, quand on part longtemps. Vous parlez de Zhang Ke, je suis parti 6 mois en Chine. Sean Penn et To The Wild, ça m'a pris 9 mois aux États-Unis. Donc c'est voilà. Mais par contre, ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on gagne, quoi. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est une expérience absolument incroyable de vie avec les autres. Donc il y a l'idée du voyage. Je pense que j'ai profondément fait ce métier. La chose qui m'a motivé le plus, et c'est pour ça peut-être que la musique, ça, j'ai laissé tomber, c'est qu'il n'y avait pas assez de promesses de voyage dans la musique. Par contre, de voyage au sens physique, mais aussi au sens figuré. Enfin, je pense que quand j'étais petit, mes premières lectures, les plus importantes, les premières, vers 8 ans ou je sais pas, c'était Tintin et Jules Verne. C'est quand même deux grands écrivains qui n'ont jamais voyagé. Et donc l'imaginaire, voilà, c'est ça toujours qui m'a porté, et je pense que ça vient de là, mais je saurais pas bien le décrire non plus, il y a déjà très longtemps dans ma vie, je suis plus tout jeune, donc voilà, donc c'est l'idée du... Et en fait, on peut voyager très loin dans une chambre de bonne à Paris, hein. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de films très parisiens, avec des Pléchins, avec Assayas, mais aussi des films loin, voilà, en Argentine.
Comme Carnet de voyage, puis sur la route de Walter Salles et entre deux Into the Wild de Sean Penn, Les Éternels de Jason Keough que vous avez cité, parce que depuis quelques années vous regardez un peu moins vers l'Amérique, un peu plus vers l'Asie, avec ce cinéma chinois qui a peut-être beaucoup à nous dire, voyage, exil et pas que. Avec nous jusqu'à midi et demi, le chef opérateur Éric Gauthier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Le chouchou des Français dans les années 90 se tourne un peu, beaucoup, vers l'international aussi. Aujourd'hui, vous accompagnez dans les années 90 la jeune garde du cinéma français, Desplechin et Assayas, après avoir fait vos classes avec Alain René, un César, pour ceux qui même prendront le train par la suite aussi. Je voulais vous faire écouter les mots d'Henri Alcan, connu pour son approche de la lumière, hein, des lumières et des ombres qu'il commande dans un film dont on va écouter un extrait, film de Laurent Roth, Des Lumières et des Hommes.
Moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est de, à propos de la technique, ça c'est de la technique, mesurer la lumière. Mais il ne faut pas seulement la mesurer. Quand on est en extérieur, c'est relativement facile. Il faut aussi l'inventer, la lumière. Il faut aussi, en studio, la construire. Et il faut la structurer. Il existe une véritable architecture de la lumière. Et cette architecture de la lumière, elle n'est pas le fait seulement d'un acte mécanique, d'un acte scientifique. Elle est le fait d'une pensée, d'une réflexion.
Voilà, elle est belle cette idée d'invention de la lumière, je trouve, qu'il développe, hein, avec peut-être cette particularité, cette patte qu'on retrouve chez tous les grands directeurs de la photo, qui vous ont peut-être vous influencé à l'écran par leur traitement de l'image, leur pratique du cadre et leur invention de la lumière. Le chef opérateur, il est artiste et technicien à la fois, il a cette double qualité.
Il est artiste, technicien et chef de chantier, parce qu'il faut quand même, le plus important de mon travail pendant la journée de tournage, c'est de gérer une équipe et de tenir le plan de travail, c'est-à-dire de faire la journée avec tout ce qui était prévu. Donc quand vous construisez quelque chose pour une lumière, il faut que ça puisse servir pour continuer la journée. Donc ça, c'est quand même l'essentiel, c'est-à-dire que pendant la journée de travail, c'est très technique, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être à la caméra pour pouvoir sentir et de retrouver le plaisir de l'image qu'on est en train de faire. Mais tout ce qui est rêve, c'est la préparation. C'est là où on imagine, là où on peut rêver, c'est là où on rentre vraiment dans l'histoire avec les personnages. Mais il a tout à fait raison, Henri Alcan, et c'est vrai que moi, la lumière, c'est ce que quand je vois des étudiants, tout ce que je leur explique. Moi, faut toujours faire ça à l'œil. C'est l'œil qui doit vous décider. Après, il y a la technique. On peut mesurer, ou on mesure au tout début pour savoir en gros si on est à peu près bien exposé. Là, je parle de la pellicule, parce que aujourd'hui, avec le numérique, c'est un peu plus facile, mais c'est quand même l'œil qui vous guide. Et donc, l'œil, ça vous guide comment? C'est parce que vous savez ce que vous êtes en train de raconter. Donc tout le travail de préparation pour moi, c'est de décortiquer, de faire le travail inverse du scénariste, c'est-à-dire d'établir une espèce de continuité comme une partition de musique, comme un score de musique, où je vois sur 6, 7, 8 pages, suivant la longueur du film, côte à côte, tout le résumé du film et toutes mes notes et tout ce que j'ai pris du scénario. Et je vais ajouter tout ce qui est inventé tous les jours, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, parce que si un jour il pleut, tout à coup votre travail sera pas du tout la même chose que s'il y avait du plein soleil. Et donc après, quand on fait les scènes qui viennent avant, après, il faut tout ça, que ça puisse raccorder, comme on dit, c'est-à-dire que ça puisse s'enchaîner harmonieusement, quoi. Donc tout ce travail-là, il se fait avant et après. Mais le travail le plus important, c'est de comprendre ce que cherche le réalisateur. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous lisez un scénario, c'est pas un roman, justement. C'est quelque chose qui est très ouvert, qui est très libre. En gros, telle scène, machin dit ceci et va là. Point. Et donc, quelles sont les intentions? Quand il dit ceci, est-ce qu'il ment ou pas, etc. Ou est-ce qu'il pense autre chose, etc. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut que j'accompagne. Et peut-être qu'à ce moment-là, quelque chose qui est dit joyeusement peut être traité de façon très sombre. Comme s'il y avait un pressentiment qu'il y a un truc qui va pas, par exemple. Voilà. Donc, tout ce travail-là, ça se fait en amont. Mais ça se continue, se concrétise, évidemment, chaque jour, sachant qu'il y a quand même toute la lourdeur aussi de gérer où est-ce qu'on garde les camions, l'arrivée, s'il y a un problème du groupe électrogène pour la lumière qui marche plus, il faut donc se débrouiller autrement, etc., avec des réflecteurs, etc. Donc c'est, il y a tout ça qui prend, et plus les humeurs aussi de toute une équipe, parce que quand même, ça compte beaucoup, genre c'est quand même beaucoup de tension, un tournage, et puis voilà, si des fois on a affaire à des gens qui une journée où ça va pas bien.
On n'est pas tout seul, c'est collectif. Vous avez dit le rêve.
Un vrai travail collectif, oui, ouais, absolument.
Vous avez dit le rêve tout à l'heure, c'est aussi assez je lis dans le film quand Catherine Deneuve, dans La vérité de Corrida, parle de la poésie, hein, de cette poésie qui est indispensable au cinéma, que le film traite de violence ou de la banalité du quotidien. Cette génération de cinéastes, réalisateurs chinois, on voulait faire un dernier petit coup de projecteur sur un film qui sort en salle mercredi, celui du chinois Dao Yinan, son nouveau film thriller dans la Chine d'aujourd'hui. Henri Leblanc l'avait rencontré à Cannes en mai dernier et lui avait demandé comment lui était venue l'idée de cette chasse à l'homme, de ce chef de gang traqué par la police et aidé par une prostituée.
Une des sources ou une des inspirations de cette histoire est arrivé quand j'étais chez moi sur un canapé écoutant la musique. C'est une chanson japonaise. Alors, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer cette histoire et je l'ai notée, mais à l'époque, je trouvais que cette histoire est trop personnelle. Et même si j'ai noté cette histoire, mais je n'ai pas continué. Après le film Black Hole, j'ai lu dans le journal une actualité ou une nouvelle qui ressemble à ce que j'avais envisagé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire aboutir ce projet.
Voilà, Le lac aux oies sauvages, c'est le quatrième long métrage de Dao Yinan après Black Hole qu'il a fait connaître, Ours d'or du meilleur film et Ours d'argent du meilleur acteur à Berlin, c'était en 2014. Alors vous n'avez pas tourné avec lui, Éric Gauthier, mais il était acteur dans Les Éternels de Jazz Hong Kong.
Je l'ai filmé.
Vous l'avez filmé.
Oui, absolument.
Vous avez évoqué le passage de la pellicule au numérique, c'était ça qui était étonnant dans cette aventure que vous avez eue avec Jazz Hong Kong. Il nous reste quelques secondes pour l'évoquer. C'est que c'était un film où étaient utilisés différents régimes d'images. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette génération de cinéastes asiatiques? Pourquoi vous allez vers eux aujourd'hui?
Oh, parce qu'ils viennent vers moi. Ça avait déjà commencé avant. Wong Kar-wai m'avait déjà proposé de faire 2046 et malheureusement j'étais en train de tourner au fin fond du Chili avec Walter Salles. Enfin malheureusement, heureusement, Carnet de voyage. Donc j'aurais pu déjà travailler. Ce sont des rencontres, voilà. Mais non, ce qui m'intéresse dans les mélanges de techniques, j'ai toujours fait. Il y a des films que j'ai fait avec une pellicule, certains films de René avec quatre différentes pellicules. Là, avec Zhang Ke, c'était intéressant parce qu'il y a trois différentes périodes et on les a traités très différemment. Donc deux périodes en numérique et puis une période sur pellicule avec des styles d'image très différents pour suivant les époques dans lesquelles ça se passe. Voilà,
c'est amusant avec la technique. Le réalisateur avec lequel vous aimeriez tourner aujourd'hui, ce serait qui?
Celui qui a envie de tourner avec moi.
C'est tout?
Ah bah oui.
D'accord.
Bah oui.
Ça marche comme ça. Merci mille fois à vous, Éric Gauthier, d'avoir été avec nous. La vérité de Corrida avec Juliette Binoche et Catherine Deneuve sort en salle ce mercredi, ainsi que Le lac aux oies sauvages, super thriller donc de Dao Yinan qu'on avait pu rencontrer à Cannes en mai dernier. Les deux films sont en salle mercredi. Merci d'avoir été avec nous.
C'est avec plaisir. Merci.